Radio, online and mobile. You're with SBS Radio. Now it's news and current affairs with SBS French.
Vous écoutez le programme en français de Radio SBS.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce mardi 26 mars avec vous Christophe Mallet et Jean-Noël Ducasse. Au sommaire, le journal, le magazine des sports, l'actualité des 7 derniers jours en France et on parlera de cinéma également. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Mais tout d'abord, les grands titres de ce mardi. En Australie, le parti One Nation, filmé en train de chercher un financement de plusieurs millions de dollars de la National Rifle Association des États-Unis. Et puis les députés britanniques ont voté en faveur d'alternatives au Brexit, se donnant le pouvoir d'organiser une série de votes afin de trouver une solution. Une enquête secrète de Al Jazeera a révélé que le parti One Nation avait demandé des millions de dollars en dons politiques à la National Rifle Association des États-Unis. La chaîne Al Jazeera a diffusé des enregistrements secrets de hauts responsables de One Nation qui ont rencontré les membres de la NRA à Washington en septembre dernier.
If One Nation could get 10 million dollars, yep. You'd pick up eight Senate seats.
That guarantees your balance of power. I mean.
L'enquête menée par Al Jazeera montre le chef de cabinet de Pauline Hanson, James Ashby, et le chef du parti dans le Queensland, Steve Dixon, en discussion avec sur un assouplissement des règles relatives à la possession d'armes à feu avec la NRA.
We're just not race based, we're just not religion based. We don't care whether you have whether you're red, white, green, we're a completely pluralist organisation. We don't harbour any sort of political agenda that relates to race or religion. It's just as simple as that. It's not part of what we were, it's not part of what we are, and we'll never be that.
Voilà, c'était Robert Borsak du Parti des tireurs, des pêcheurs et des agriculteurs qui a déclaré à l'ABC que son parti n'avait jamais approché la NRA et qu'il était sous le choc après avoir appris que One Nation avait l'intention de faire appel à une aide extérieure pour modifier les lois australiennes sur les armes à feu. Robert Borsak a déclaré que son parti ne prenait pas la violence. Le gouvernement fédéral est en train de rédiger des lois en vertu desquelles les entreprises des médias sociaux enfreindraient la loi australienne si elles n'enlèvent pas des séquences d'actes criminels violents dès qu'elles en ont la connaissance. Une réunion aura lieu ce mardi avec les géants des réseaux sociaux, moins de 2 semaines après le massacre des mosquées de Christchurch où 50 personnes ont été tuées. Une vidéo de l'attaque terroriste dans laquelle un homme armé, isolé, a ouvert le feu sur 2 mosquées lors des prières du vendredi et qui a été diffusée en direct sur Facebook. Le procureur général Christian Porter a déclaré sur l'ABC que les entreprises devraient être en mesure de faire plus.
A 10-year-old, or any Australian for that matter, could have logged onto Facebook and witnessed a massacre, a terrorist event of mass murder, and we think that is totally unacceptable. It would be unacceptable for any mainstream media news platform such as yours or a commercial station who are very heavily regulated, and we believe that if there can't be appropriate answers and responses about content control, then we will legislate to ensure that we get the sort of outcome that Australians, I think, deserve.
Voilà, c'était Christian Porter, le procureur général. L'Australie signera un accord commercial avec Hong Kong afin de garantir aux entreprises australiennes l'accès à de plus grands marchés. L'accord va fixer à zéro les droits de douane applicables aux exportations australiennes sur le 6e marché le plus important pour des produits australiens. Le ministre du Commerce, Simon Birmingham, a déclaré que l'accord visait également à bénéficier les services professionnels et les petites entreprises. Une analyse du sondage Newspoll montre que le soutien à la coalition gagne du terrain pour s'établir à son plus haut niveau depuis le départ de Malcolm Turnbull au poste de Premier ministre. L'analyse effectuée par le journal The Australian montre également que le vote de la coalition a également rebondi dans les 5 plus grandes capitales, mais il a toujours du retard sur le Parti travailliste. Le sondage de News Poll, qui a utilisé un échantillon de 6400 électeurs, montre que la coalition a perdu son soutien dans les régions rurales. Une étude de l'université Macquarie a révélé que les arts martiaux peuvent aider les enfants des écoles primaires à devenir plus résistants à l'intimidation. Le chercheur Brian Moore a expérimenté un programme d'entraînement aux arts martiaux dans plusieurs écoles de Nouvelle-Galles du Sud à la place des méthodes traditionnelles de lutte contre l'intimidation. Les députés britanniques ont voté en faveur d'alternatives au Brexit, se donnant le pouvoir d'organiser une série de votes afin de trouver une nouvelle solution. Un groupe de députés a remporté le vote pour s'emparer du contrôle des affaires parlementaires par 329 voix contre 302. Cela a ouvert la voie aux députés pour choisir entre différentes options du Brexit afin de mettre fin à la crise politique. Précision de Marina Daras pour Radio France Internationale.
La première ministre britannique a perdu lundi soir le contrôle de la Chambre des communes. Les députés, dont une trentaine de conservateurs et quelques ministres, ont voté contre les ordres du gouvernement. Le ministre du Commerce ainsi que le secrétaire d'État en charge du Moyen-Orient aux affaires étrangères ont tous les deux démissionné afin de pouvoir voter librement en faveur de l'amendement Letwin. Cet amendement doit donner à la Chambre des communes la possibilité de tenir une série de votes indicatifs sur différentes options de Brexit dans l'espoir qu'une majorité de députés se prononce en faveur d'une même solution. Parmi les 6 options qui seront proposées, celle d'un deuxième référendum européen. Les députés auront également le choix de voter pour un accord similaire à celui de la Norvège, l'adhésion permanente à l'union douanière ou même l'annulation complète du Brexit. Ces votes qui devraient avoir lieu mercredi ne sont en théorie que des votes indicatifs qui n'ont jusqu'alors jamais été tenus au sein de la Chambre des communes. Theresa May a refusé de dire si elle respecterait le résultat, mais cette défaite marque un tournant dans le chaos que sont devenues les négociations sur le Brexit.
Et en Australie, le ministre fédéral du Commerce, Simon Birmingham, a déclaré que l'Australie avait adopté ce qu'il appelle une approche ouverte pour faire face aux possibilités inconnues du Brexit. Il a déclaré que le gouvernement australien s'assure qu'il est prêt à engager des négociations de libre-échange avec la Grande-Bretagne. Et le ministre a aussi déclaré sur Sky News que son gouvernement négocie déjà un accord avec l'Union européenne.
We've done everything we can to protect Australia's interests under any of the possible eventualities. And what we want to make sure is that in the end, under whatever trade deals we do with the EU and or the UK, that we actually increase the access into those critical markets for Australia. Because the EU, whether it's with 27 or 28 member nations, is Australia's second largest trading partner.
Le Hamas a annoncé avoir conclu un cessez-le-feu avec Israël après un échange de tirs à la roquette 2 semaines seulement avant les élections israéliennes. Israël a commencé ses frappes à peu près même au même moment où le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait rencontré le président américain Donald Trump à Washington. Israël n'a pas encore commenté le cessez-le-feu. Précision de Marine Vlaovic pour RFI.
Oui, c'est le Hamas qui a annoncé ce cessez-le-feu obtenu grâce à une médiation égyptienne. Une information aussitôt démentie par l'État hébreu. Selon les médias israéliens, le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'y refuse. De nouvelles frappes israéliennes sont d'ailleurs signalées actuellement, ainsi que des tirs de roquettes palestiniennes. Si cet accord existe bel et bien, il n'est donc pas respecté. Au cours des dernières heures, l'armée a ciblé plusieurs sites militaires du Hamas et des tunnels, ainsi que le bâtiment de la sécurité intérieure du Hamas en plein centre de la ville de Gaza, mais surtout le bureau d'Ismaël Haniyeh, le dirigeant du mouvement islamiste. Le bâtiment vide aurait été entièrement détruit, rapportent les médias palestiniens. Tout un symbole et un signe d'avertissement fort qui pourrait expliquer l'empressement du Hamas à demander rapidement une cessation des hostilités qui se poursuivent. Les sirènes annonçant les roquettes palestiniennes résonnent d'ailleurs en ce moment dans le sud d'Israël.
Marine Vlaovic pour RFI. Le président américain Donald Trump a signé un décret reconnaissant la souveraineté d'Israël sur le Golan.
Under my administration, the unbreakable alliance between the United States and Israel has never been stronger. You read things, you hear things. It's never been stronger. Just remember that. People talk, but it's only talk. Our relationship is powerful.
Le gouvernement syrien a déclaré que la reconnaissance par Washington des revendications israéliennes sur le plateau du Golan constituait une atteinte flagrante à sa souveraineté. La Russie dit craindre, je cite, une nouvelle vague de tensions au Moyen-Orient à la suite de la décision des États-Unis. En Europe, à 2 mois des élections européennes, les conservateurs allemands, CDU et CSU, présentent un front commun. Explication de Pascal Thibault pour RFI.
Notre Europe nous rend fort pour la sécurité, la paix et la prospérité. Le titre du programme de 22 pages des conservateurs allemands n'est pas révolutionnaire. Il insiste clairement sur les dossiers politiques et de sécurité. Parler d'une voix unique face aux grandes puissances, développer la politique de défense commune mais aussi les règles sur les exportations d'armes, renforcer l'espace Schengen et mieux protéger les frontières extérieures, créer des centres de transit pour trancher rapidement sur les demandes d'asile et renvoyer les personnes déboutées. Contrairement à Emmanuel Macron, CDU et CSU ne prônent pas une intégration supplémentaire en matière économique. Ils rejettent toute mutualisation pour la zone euro et exigent un plus strict respect des critères de stabilité budgétaire. Une politique sociale européenne est rejetée. Pour imposer ces thèmes, CDU et CSU veulent gagner les élections en Allemagne et imposer leur candidat à Bruxelles. La présidente des chrétiens-démocrates, Annegret Kramp-Karrenbauer.
Nous partons sur de bonnes bases pour obtenir de bons résultats le 26 mai prochain en Allemagne, mais aussi au-delà pour renforcer le Parti populaire européen et atteindre notre but, à savoir que notre tête de liste, Manfred Weber, puisse à l'arrivée devenir le nouveau président de la Commission européenne.
Un succès des conservateurs allemands est pronostiqué par les sondages. CDU et CSU devancent d'une douzaine de points les sociodémocrates qui ont présenté leur programme ce week-end.
Pascal Thibault pour RFI. Les élections de dimanche dernier en Thaïlande et les deux camps en lice revendiquent la victoire pour Eugénie Merriot, chercheuse à l'université de Göttingen en Allemagne, spécialiste de la Thaïlande. Il y a 3 leçons à tirer.
La première leçon, c'est que le clivage jaune-rouge est dépassé, il s'est déplacé vers un clivage entre les pro-démocrates et les pro-armées. On a un conflit générationnel avec des jeunes qui plébiscitent plutôt la démocratie et une part de l'électorat qui a, en dépit des trucages, s'ils sont vérifiés, réellement soutenu l'armée. La deuxième chose, je pense qu'il faut retenir de cette élection, c'est que la monarchie s'est impliquée directement dans cette élection, avec d'une part le roi qui soutient l'armée et la sœur du roi, donc Ubonrat, la princesse, qui soutient le parti de Thaksin et le camp démocratique en général. Et je pense que la troisième leçon aussi, c'est qu'il y a une reconfiguration du jeu électoral, avec la fin du Parti démocrate, qui est un parti qui s'est traditionnellement allié avec la monarchie et avec l'armée. Et donc, sa disparition, in fine, affaiblit l'armée et la monarchie.
Le Mali est toujours sous le choc après l'attaque par des hommes non identifiés d'un village Peul du centre du pays qui a fait au moins 160 morts et des dizaines de blessés. Fatou Bensouda, procureur de la Cour pénale internationale, condamne ces massacres.
Les violences répétées qui sont commises dans le centre du Mali sont extrêmement préoccupantes. Je condamne fermement ces crimes et appelle toutes les parties concernées à s'abstenir de recourir à la violence. Mon bureau est en contact étroit avec les autorités maliennes, notamment dans le cadre de ces événements signalés récemment. Il prendra toutes les mesures qui s'imposent en complémentarité avec le système de justice pénale du Mali, afin de veiller à ce que ceux qui ont participé ou contribué de toute autre manière à ce qui semble être des crimes abominables susceptibles de relever de la compétence de la Cour pénale internationale fassent l'objet d'une enquête et de poursuites. Dans l'immédiat, une délégation du bureau va rencontrer cette semaine les représentants des autorités compétentes pour discuter de ces questions. Les violences doivent
The violence must stop.
2 avions militaires russes sont arrivés au Venezuela le week-end dernier avec à leur bord 99 soldats russes et 35 tonnes de matériel. Précision de Stéphanie Schuller pour RFI.
Après l'atterrissage de deux appareils militaires russes à l'aéroport international de Caracas, ni le gouvernement de Nicolas Maduro, ni l'ambassade de Russie au Venezuela n'ont fait la moindre déclaration. Aucune information n'a circulé sur la raison de la présence de militaires russes sur le sol vénézuélien, pas plus de détails sur la nature des 35 tonnes de matériel livrées par Moscou à ses alliés chavistes. L'agence russe Sputnik assure seulement que ces vols n'ont rien de mystérieux, mais qu'ils ont été effectués dans le cadre de la coopération technique et militaire entre les deux pays. En décembre dernier, Moscou et Caracas avaient en effet annoncé la relance de cette coopération dans le but de renforcer les capacités de défense du Venezuela contre d'éventuelles attaques. Deux bombardiers russes capables de transporter des armes nucléaires avaient alors participé à des exercices militaires conjoints au Venezuela. Ce week-end, une heure seulement avant l'arrivée des deux avions militaires russes, Nicolas Maduro avait accusé l'opposition de préparer un plan pour l'assassiner. Accusation immédiatement rejetée par le président par intérim autoproclamé Juan Guaido, qui a dénoncé une nouvelle tentative de diversion du régime en place.
Stéphanie Schuller pour RFI. Coup d'œil météo pour ce mardi en Australie. Perth maximale de 32 degrés, Adélaïde 21, Melbourne 18, Hobart 15, Canberra 22, Sydney 25, Brisbane 32, Cairns 31, Darwin 32 et à Alice Springs, maximal de 37 degrés. Un rappel des grands titres de ce mardi, le Brexit à la une et aussi le Parti One Nation filmé dans une enquête secrète de Al Jazeera. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench